Alleluia, 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 Alleluia. Dieu béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Et Jésus disait, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui est mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront. Ils sépareront les méchants des milieux des bons. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que vous avez bien compris tout cela? Et eux, ils répondaient, oui. Alors Jésus ajouta, voilà pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que sa lumière se répande sur toute la surface de la terre comme un manteau. Qu'elle vienne la vivifier, pénétrer toute chair assoiffée de sainteté, toute pure, virginale et divine. Qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut. Libres de toute entrave, lavés de toute faute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. 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 falloir, de temps en temps, rester tout petit. Est-ce que vous avez bien compris? Vous allez à la messe tous les dimanches?
Oui.
Même quelquefois, même quand c'est pas le dimanche, encore c'est la messe pour les enfants, sûrement, de temps en temps. Hein. Ah, alors, pareil, c'est un foison, on y va le matin, le midi, le soir. Hein. C'est merveilleux. Un ermite, c'est merveilleux, oui, parce qu'il vous montre. Un ermite est là pour montrer comment c'est la maison dans une famille. Une famille, la maison principale, c'est là où on prie. Une famille qui prie, c'est une famille qui vit. Et ouais. Et je peux te dire une chose, c'est qu'il y a des familles où personne ne prie jamais. Il n'y a pas la prière. Tandis que dans une... Alors, mais oui, mais... Oui, mais si on est tout seul, c'est pas la peine. Notre prière, c'est dans notre cœur. Ah oui, mais si on est plusieurs, eh bien, un ermite, il met une chapelle. Pourquoi? Parce que il est jamais seul. Il est jamais seul. Il y a toujours les anges. Il y a les anges de Dieu. Et puis aussi, il y a les saints. Parce que dans une famille, quand les portes sont ouvertes, les saints peuvent rentrer dans la maison. Par exemple, Saint Charbel, c'était sa fête il y a quelques semaines. Hier, c'était la fête de Sainte Marthe. Oh, je l'aime bien, Sainte Marthe, c'est une contemplative, Sainte Marthe. Oui. Sainte Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Regarde, cette semaine, il y en a eu. Saint Jacques. Saint-Jacques, qu'est-ce qu'il est drôlement bien. Les gens, ils sont drôlement bien, Saint-Jacques. Il y a des millions, des millions, des millions, des millions, des millions de gens qui marchent comme ça, à pied sur la route, pour faire comme Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Il y a le Saint-Jean-d'Arc. C'est drôlement bien. Quand on est dans une maison, il y a la prière. Parce que quand il y a la prière, toi tu t'arrêtes de prier. De toute façon, on ne s'arrête jamais de prier. Parce que même quand toi tu t'arrêtes de prier, à l'intérieur du fond, dans le fond de ton âme, il y a toujours quelque chose qui est en train de prier. Il y a une odeur qui monte comme ça, directement au ciel. Tu pries tout le temps. Nous, on est baptisés, tu comprends? Quand en plus on a reçu le sacrement de confirmation, le baptême déborde. Sans que tu t'en rendes compte. C'est vraiment génial. Alors, Jésus, quand vous allez à la messe le dimanche, vous avez remarqué, c'est pas moi qui vous l'apprends à chaque fois, il y a, on lit des textes de la parole de Dieu, on lit l'évangile, et Jésus parle. Et aujourd'hui, je sais pas si tu t'es rendu compte que Jésus, il a parlé. Il a dit, voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le basiléo, tout est haut. Ah. Hein? Le royaume de Dieu. Le basiléo, vas-y pour voir. Le basiléo, tout est haut. Parce que toi tu parles en hébreu, tu as dit, j'écoute si mes chemins. Basiléo, tout est où? Pas de problème. Le basiléo, tout est où? Le royaume de Dieu. Parce que dès que tu fais partie de la famille de Jean-Baptiste, on peut monter au grand-père, aux arrière-grands-pères. On peut monter à la famille de Jean-Baptiste. Ou de Pierre, automatiquement, tu fais partie du basiléo, tout est où? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, sa moitié sponsale, et Pierre, sa moitié sponsale, et surtout l'au-delà de l'unité des deux, c'est le basiléo, tout est où? Allez, t'as peur. C'est le royaume de Dieu. Tu sais, ton oncle Jean-Baptiste, pendant des années et des années, pendant des années et des années, il cherchait partout un champ où il trouverait un trésor dedans. Il a cherché partout, et il cherchait. Où est-ce qu'il pourrait planter un petit peu le bas, c'est là où tout est, le royaume de Dieu. Et il a trouvé ça, moi, c'est pour ça, il a dit, tiens, là, ici, j'ai trouvé un champ où peut-être on va pouvoir creuser et trouver un trésor. Parce que un saint de la terre, tout seul, il ne peut pas trouver le bas, c'est là où tout est, où il faut qu'il trouve un champ. Et une fois qu'il a trouvé un champ, il faut qu'il creuse dans le champ pour abandonner tout le reste, hein, tout ce qu'il avait trouvé jusque-là, et pour voir qu'il y ait une perle. Alors, il va falloir creuser ce champ, acheter ce champ. Et puis après, on va creuser dans ce champ. Dans le creux de nous, à l'intérieur de nous, il y a les autres. On n'est pas tout seul. Et si tu n'as pas trouvé à l'intérieur des autres le bas et le haut tout est haut, c'est-à-dire le champ à l'intérieur duquel tu as trouvé ce qui est beaucoup plus fort que l'amour et la lumière, c'est l'unité sponsale. Alors à ce moment-là, une fois que tu as trouvé ce champ, tu aperçois qu'il y a un trésor. Vous savez, dans l'unité sponsale, tu sais ce que c'est l'unité sponsale? Unité sponsale. Répète pour voir. Unité sponsale. Ben oui, c'est très bien. C'est du latin. Hein? Alors, unitas sponsalis. Comme ça, tu seras de l'hébreu, du grec, basileo, tout est où, et puis du latin. Unitas sponsalia. C'est trop bien, unitas sponsalia. Parce que c'est un champ à l'intérieur, tu creuses, mais attention, faut creuser. Faut creuser, tu ne trouves pas la perle du royaume de Dieu dans l'au-delà de l'unité des deux si tu ne creuses pas. Il faut creuser le creux. Il faut creuser, si tu restes à la surface, il n'y a pas d'unité sur ça. Il faut creuser, bien en dessous du baptême. Il faut creuser. Il y a un calice à l'intérieur de nous. Un calice, il y a une capacité réceptive. Il y a un calice, il y a un trésor. Un trésor, une coupe. Une coupe en diamant. Translucide, transparente. Jamais attaquée. Jamais vue. Jamais perçue par le démon. Jamais rayonné par le péché, ni par ses conséquences, ni par ses séquelles. Et il y a un calice caché dans la chair et le sang du corps spirituel. Et ce calice caché, il est dans le creux. Voilà. Et à l'intérieur de l'unité des deux, pas de toi ou de toi, pas de toi ou de toi, mais dans la très grande profondeur de l'émanation de l'unité des deux, il y a un trésor. Il y a une perle et un calice. Alors tu laisses tout tomber. Tu laisses tout tomber. Tu ne t'intéresses qu'à ça. Voilà, je vais acheter ça. Je vais acheter ce champ. Je vais creuser. Je vais avoir une vie contemplative. Hein? Je vais avoir une vie contemplative comme elle, pareil. Je vais avoir une vie contemplative, intrépide. Hein? Et je vais m'habituer à entrer invisiblement dans la lumière qui fait vivre ce calice de diamant. Ce calice de diamant, hein, c'est la présence créatrice de Dieu. C'est la présence créatrice palpable de Dieu. Donc tu sais, je vous l'ai dit plusieurs fois, puisqu'il me semble avant le mariage, je vous ai vu avant le mariage. Non, pas en danger. Je ne me rappelle plus après. Elle dit bien sûr qu'on a dit, on peut très bien être, on n'est pas des saints au départ. Mais dès qu'on est marié, ça y est, la sainteté, elle est là, elle est en permanence. Si tu as si la couleur bleue et la couleur du soleil, la couleur de l'immensité, de la capacité et profondeur de l'amour. Oui, c'est un peu, ça c'est un petit peu, c'est vrai, on n'est pas des saints, on ne sait pas. Ça, la grâce de Dieu, dans le calice, le sang de Jésus descend. Et le sang de Jésus descend dans notre baptême. Mais là où il descend, à l'état permanent, sans aucun obstacle, à l'état pur, immaculé, surabondant, c'est pas dans le bleu, c'est pas dans le jaune, c'est dans le vert. Nous, on hérite du péché originel. L'homme et la femme, ils héritent du péché originel. On le sait bien, ça racle. Mais dans l'unité des deux, c'est-à-dire dans la nature normale de notre humanité, il y a quelque chose qui n'est pas atteint par le péché originel. Et donc quand on a le mariage, on a une chance très très grande, très forte. Parce que nous portons avec nous, dans notre chair contemplative, quelque chose de physique, de palpable, de lumineux, d'intérieur, qui n'est jamais atteint par le péché originel, ni par ses conséquences. Et donc il faut trouver ce trésor-là, le royaume de Dieu. On le trouve facilement. Non? On y arrive au bout d'un certain temps, hein? On y arrive. On y arrive. Il suffit de ça, d'être un petit peu en repos, un petit peu en abandon. On lâche prise et on rentre dans le trésor. On n'a pas besoin d'avoir la foi pour ça, puisque c'est la nature qui fait ça. Mais par la foi, on rend l'intériorité lumineuse, vivante du corps d'amour visible. Alors, la famille commence. La création de Dieu commence. Je ne dis pas la création des enfants, la vocation, je ne parle pas de ça. Je parle de Dieu lui-même. Les rabbins et les nations d'Israël se posent la question. Pourquoi la Bible commence-t-elle par un bait? C'est vrai, au commencement. En hébreu, la Bible commence par un B. Elle ne commence pas par un A. La Bible commence par Bereshit bara. Premier mot, c'est un bait. Bara, c'est un bait. Bereshit bara. Elohim. Bereshit bara. Elohim. Atashamayim. Arrête, ça tu te reconnais, ça c'est l'hébreu, hein? C'est comme si Koussi mes chemins. Bereshit. Bereshit, ça commence par un B. Pourquoi est-ce que la Bible commence par un B, Lucie, à ton avis? Pourquoi la Bible commence par un B? Parce que si ça commençait par un A, ça veut dire que tout commencerait avec quelqu'un qui est tout seul. Et le B, c'est comme ça, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça. C'est un V à l'envers. C'est un V comme ça. Toc. Un V comme ça. Toc. C'est la clôture de l'amour dans secrète, cachée à la... Mais qui s'ouvre, toc, à l'infini, comme ça. C'est le chiffre de la maison. C'est le chiffre 2, mais c'est aussi la lettre en hébreu que tu traduis par foyer. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire, faut jamais dire couple. Faut jamais dire couple. Foyer. Le foyer, c'est bien, c'est un feu caché et secret, à partir duquel, dans la clôture de l'intimité, à l'infini des profondeurs, il s'ouvre comme ça, à l'infini. C'est l'homme et la femme. C'est pour ça que le deuxième mot, c'est Bereshit bara Elohim. À ce moment-là, le parfum de la spontanéité éternelle de Dieu peut commencer à apparaître. Et le bête, le foyer, l'unité spontanée, peut être envahi directement et sans voile par l'émanation de l'éternité vivante de Dieu. C'est un sacrement, vous savez. C'est un sacrement qui était décidé d'exister par Dieu dès le premier mot de la Bible. C'est beau ça, tu sais. C'est beau, c'est vrai. Moi j'ai un cousin comme ça qui était à Paris, un peu Thierry. Je ne comprenais pas, il était tout fou, il tournait à droite, il tournait à gauche. Il parlait, il allait chez les gens. Il était très, très, très... Il parlait jusqu'à ce que même la bave, tellement il parlait, la bave coulait ici. C'est vrai, dès l'âge de 17 ans, il était comme ça. 18 ans, 19 ans, 20 ans, hein, à 25 ans, ça continue, à 29 ans, ça continue, à 32 ans, c'était encore comme ça. Et puis il dit, mais pourquoi t'es comme ça? Il dit, je cherche une femme. Je veux marier. Oui, mais enfin, Thierry, on fait pas comme ça. Mais finalement. Ah bon. Extraordinaire. L'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il s'est marié, c'est un des rares. Chez mes cousins, j'ai beaucoup de cousins, c'est vrai, dans ma famille, hein. Très, 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 on est très, très nombreux. Des filles, des enfants de mon arrière-grand-mère, on est plus de 3000 cousins, hein. Et de tous côtés. Alors, on est très, très nombreux, on est presque 10 000 cousins germains. Et bien, lui, c'est un des plus saints de tous, parce qu'il cherchait tout le temps, tout le temps. Il cherchait sa moitié responsable. Il le cherchait. Tu peux pas savoir. C'était son tourment. C'était extraordinaire, Thierry. J'aime beaucoup ce cousin. Et c'est vrai. Et le royaume de Dieu, il est fait comme ça. À la recherche d'un trésor. Mais le trésor, il existe déjà. C'est pas quelque chose qui va nous être donné comme ça. Il existe déjà. Il faut aller le chercher, il faut aller le creuser. Il faut aller creuser dans la terre. Hein? Le royaume de Dieu, Basile est où? Tout est où? Réponds. Oui, mon père. Oui, mon père. Oui, Basile est où? Tout est où? Le royaume de Dieu. Et quand on vient à la messe, on recommence toujours, non pas à zéro, mais on recommence à retrouver, à repénétrer à l'intérieur du calice. Parce que quand vous voyez le calice, là, sur l'autel, et que vous êtes tout près, vous êtes à la messe, vous êtes tout près du calice, et tout près de l'autel, hein, vous voyez juste un autel, vous voyez un calice, c'est tout ce que vous voyez, d'accord ? Eh bien, en réalité, il y a, venant du ciel, ici, en même temps que le calice, et en même temps que l'autel, il y a des anges de Dieu remplis de lumière, qui sont extrêmement puissants, qui chassent tous les démons jusqu'aux plus lointaines bordures de l'univers. Et ces anges-là portent avec eux, ils ont la même forme que le calice. Et ils ont la même forme que l'autel. Vous savez, quand le prêtre il commence la messe, il embrasse l'autel. Il dit « Introibo ad altare Dei ». Je m'introduis, je rentre à l'intérieur de l'autel. Et j'élèverai le calice de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Parce que je saisis à chaque fois quelque chose d'angélique, à chaque fois quelque chose de sacramentel, et à fois, en même temps, quelque chose de divin. Eh bien, quand je rentre, je m'introduis à l'intérieur de l'autel, je m'introduis à l'intérieur de la pensée. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu un sermon vous dire ça. Non, vous savez, l'autel, c'est la pensée. Engloutis à l'intérieur du royaume de l'amour, de la sponsalité, parce que le Père et le Fils sont appelés Abba et Ben Elohim, Père et Fils, pour cacher le secret de Dieu. Et les sceaux cachent le secret intérieur de Dieu. Le sceau cache bien, s'ouvre à la fin du monde. Et on voit qu'ils ne sont pas tellement le Père et le Fils. Ils sont l'époux et l'épouse qui disparaissent dans la sponsalité. Les deux premières personnes de la très sainte Trinité sont sponsalité. Et c'est pour ça que la Bible commence par un bête. Un bête, c'est la sponsalité. Ce n'est pas un couple. C'est trois en un, en trois. Alors ça, j'espère que tu l'apprendras par cœur, ça. Chalochad, Beurad, Eurad, Beslochad. Oh, fais-moi plaisir, répète. Vas-y. Chalochad, ça veut dire trois. Trois. Chalochad, vas-y. Et maintenant, tu dis Eurad, c'est un. Voilà. Et Eurad, encore. Beslochad. Beslochad. Trois en un en trois. Regarde, je vais te le répéter. On va l'apprendre par cœur, tout le monde, d'accord? Marie, si tu ne sais pas par cœur, alors là. Je ne serais pas content. Chalochad Beurad, Eurad Beslocha, Eurad Beslocha, toi. Chalochad Beurad, Eurad Beslocha, Eurad Beslocha. Ah, Ben Elohim, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Ben Elohim. Chalocha Beurad, vas-y. Eurad Beslocha. Eurad Beslocha. Oui, exactement. C'est le contemple tu veux. Quand tu vois un mariage, une famille, hein, quand il n'y a pas encore les enfants, et ben tu regardes bien, tu verras. Il n'y a pas de couple. Il y a Chalochad Beurad, Eurad Beslocha, Eurad Beslocha. Parce que nous, les yeux, ils peuvent rentrer à l'intérieur du cœur, ils peuvent rentrer à l'intérieur de la coupe, ils peuvent rentrer à l'intérieur du sang, ils peuvent rentrer à l'intérieur du corps spirituel, nos yeux, ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'autel. Et comme ils peuvent voir à l'intérieur du cœur, ils voient qu'ils sont trois en un en trois. Trois en un en trois. Vas-y. Trois en un en trois. Trois en un en trois. Un en trois. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. C'est Dieu amour, Dieu. C'est pour ça, par exemple, si par exemple tu dis, voilà, On va chez Père Patrick, oui, mais Père Patrick, je l'aime pas. Est-ce que tu fais partie du royaume de Dieu? Ah! Et si moi je vous vois, et je dis, mais je vous aime pas. Moi je suis ermite, j'aime pas les gens qui sont mariés. Est-ce que je fais partie du royaume de Dieu? Et non, puisque j'embrasse l'autel, je m'introduis, je m'engloutis dans la sponsalité. Et du coup, on ne peut plus jamais se quitter. Hé, on fait partie de la famille. Tu comprends bien? Jésus fait partie de la famille. Le Saint-Esprit fait partie de la famille. Trois en un en trois. Trois en un en trois. Ah, ça me fait plaisir. Bon, on va célébrer la messe. Alors ça, c'est l'autel. Vous faites comme le prêtre. Vous vous introduisez, vous engloutissez, vous embrassez. Introibo. Je vais m'engloutir, introibo, dans l'autel de Dieu. Dans la sponsalité éternelle, dans l'amour qui est sponsal, je vais m'y introduire et je vais offrir le calice du sang, le calice de l'amour, du mouvement éternel de l'amour de Dieu. Et le calice, vous savez ce que c'est, je vais vous dire ça, le calice, l'ange vous l'expliquera un jour, en tout cas je peux vous dire, l'ange il y a chaque messe, et il y a l'espace plus grand que l'univers, l'ange. Hein. Et le calice, c'est que tu prends entre tes mains, dès que tu es dans la responsabilité de Dieu, dès que tu es dans le royaume de Dieu, le calice, c'est, il a cette forme-là, comme ça. Et dès que tu es rentré dans l'autel de Dieu, tu peux prendre le calice, à l'intérieur du calice, tu en fais partie. Ce calice est fabriqué avec du diamant. Mais c'est un diamant de matière incarnée, c'est-à-dire très très réelle, qui contient la nature humaine tout entière. C'est toute la nature humaine qui forme le calice. Et dès que tu es dans la sponsalité et dans la messe, les deux en même temps, tu t'es introduit dans l'autel de Dieu, tu peux offrir le calice. Parce que la nature humaine entière, c'est le pouvoir du chrétien, c'est le pouvoir de la famille, de pouvoir offrir le calice et que l'amour, le sang très précieux de Jésus vient sourdre comme une source invisible, mais qui devient visible à l'intérieur du calice, et qui remplit le calice de la nature humaine tout entière. La nature humaine tout entière. On a autorité. Dès qu'on fait partie de la famille, du royaume de Dieu, on a autorité sur la nature humaine tout entière. Et si dans le filet du Seigneur, si dans le filet qui est jeté dans la mer, il y a des poissons qui sont mauvais, c'est pas grave. Les anges sortiront et ils enlèveront. Parce que le royaume de Dieu ne supporte pas les gens qui ne sont pas remplis d'amour, qui ne sont pas des instruments d'amour. La table est prête. Hein? Voilà le pain d'amour, le calice d'amour. La vie contemplative s'est ouverte. Ça le sabbat. Alors, le sabbat. Trois en un en trois. Trois en un en trois. Trois en un en trois. On est beaucoup plus. Vous voyez, vous avez, je vois ici, vous avez regardé les petits garçons. Je vois les, toutes ces filles, toutes ces. On n'a pas un visage qui pareil, c'est comme ça. C'est étonnant. Comme... C'est pas la preuve que ça vient pas de deux. Ça vient de trois. C'est la preuve générale. C'est, en fait, ça vient de quatre, ça vient de Dieu. Mais comme Dieu n'a pas de visage dans la chair. Il y a bien un troisième visage. Il y a un troisième visage. C'est qui m'avait montré ça il y a un peu plus d'un an? On voit c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est génial. Comme, je pensais pas que ce soit possible comme idée, mais toi, tu serais capable de faire ça, je pense. Il s'était mis en bas d'un escalator sur un aéroport, quoi. Alors on voit les gens descendre comme ça. Et il a pris comme ça, les visages, toujours fixes. Hein. Visage. Il en a pris 10 000. Il a fait un logiciel, il a multiplié, il a mixé les 10 000 visages. Tu vois. Et ça donnait le visage de Jésus. C'était à Sainte-Foy, c'était Jésus. Fallait y penser, hein. C'est vrai. Tu prends l'image fixe. Tic, 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 tic. Et le troisième, il apporte son visage aussi. Et ce visage qui est apporté par le troisième, de l'au-delà de l'unité des deux, dans la transactuation surnaturelle spontanée, il a un vrai visage. Tu vois?